Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
Je vous invite à nouveau à ouvrir vos Bibles afin de lire le texte de la prédication qui sera accompagné de deux textes complémentaires. Le premier texte, donc qui sera le texte principal, 2 Pierre 2, des versets 9 à 22. C'est donc que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour les châtier au jour du jugement. Ceux surtout qui, dans un appétit de souillure, recherchent les plaisirs charnels et méprisent l'autorité du Seigneur. Présomptueux, arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, alors que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des animaux dépourvus de raison et destinés par nature à être capturés et détruits, ils injurient ce qu'ils ignorent. Ils périront par leur propre corruption. L'injustice sera le salaire de l'injustice. Ils trouvent leur plaisir à se livrer à la volupté en plein jour. Ils ne sont que des défauts et taches. Ils se délectent de leur tromperie en festoyant avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils séduisent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima un salaire injuste, mais qui fut repris pour sa propre transgression. Une bête de somme muette fit entendre une voix humaine et arrêta la démence du prophète. Ce sont des fontaines sans eau, des nuages que chasse la tempête. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours grandiloquents et creux, ils séduisent par les convoitises déréglées de la chair, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans leur égarement. Ils promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est l'esclave de celui qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par elles, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit le proverbe véridique. Le chien est retourné à son vomissement, et la truite à peine lavée va se vautrer dans le bourbier. Ensuite, un deuxième texte dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres, au chapitre 22, Nombres 22, 9 à 22. Dieu vint vers Balaam et dit « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Balaam répondit à Dieu « Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire « Voici un peuple qui est sorti d'Égypte et qui couvre la surface de la terre. Viens donc, voue-le pour moi à la malédiction. Peut-être ainsi pourrai-je le combattre et le chasserai-je. » Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. » Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Et les chefs de Moab se levèrent, revinrent aux prières de Balak et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre, et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent « Ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne, que l'on ne t'empêche pas de venir vers moi. Car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie. Voue-moi ce peuple à la malédiction. » Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak: quand Balak me donnerait plein sa maison d'argent et d'or, je ne pourrais rien faire de petit ni de grand contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, vous aussi, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit: puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu exécuteras la parole que je te dirai. » Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et un ange de l'Éternel se tint debout sur le chemin pour s'opposer à lui. Et un dernier texte tiré du livre de Daniel au chapitre 4. Des versets 25 à 34. Daniel 4, des versets 25 à 34. Tout cela s'accomplit sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit: n'est-ce pas ici, Babylone la Grande, que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour l'honneur de ma gloire? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. C'est à toi que l'on parle, roi Nebuchadnezzar. Ta royauté s'est retirée de toi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il lui plaît. Au même moment, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux poussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre sont comme s'ils n'avaient pas de valeur. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et lui dise: que fais-tu? En ce temps, la raison me revint. L'honneur de ma royauté, ma gloire et ma splendeur me furent rendus. Mes conseillers et mes grands me réclament. Je fus rétabli dans ma royauté et ma grandeur ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil.
Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore vus. Merci pour les lectures, Loïc. En plus, il faut dire que j'ai rajouté le texte de Daniel au dernier moment, ce qui peut avoir aussi un côté stressant. Merci à toi. Est-ce que ce ne serait pas réjouissant d'avoir un texte pas trop long, écrit par un chrétien de référence, qui résume comment mener une vie chrétienne pour être en bonne santé spirituelle et garder jusqu'au retour du Seigneur? En peu de mots, c'est ce qu'on peut dire de la deuxième épître de Pierre qu'on étudie en ce moment. Une lettre écrite par un des personnages bibliques, Ancien et Nouveau Testament compris, réputé parmi les plus importants, qui dans ses derniers jours avait encore comme préoccupation d'être un berger pour les brebis du Seigneur, selon que Jésus lui avait dit à 3 reprises, « Paix, mes brebis ». Elle est relativement courte, on peut la lire en 10 minutes. Elle contient un condensé des éléments essentiels de la vie du chrétien. Il vaut la peine non seulement de la lire, mais aussi d'en méditer les différentes parties qui, pour certaines, sont très condensées et riches. Et bien sûr, ce qui fait de cette lettre son plus grand intérêt, c'est que derrière l'auteur humain, derrière Pierre, il y a Dieu qui a inspiré cet écrit par le Saint-Esprit et qui en a fait la parole de Dieu infaillible. Or, puisqu'il existe un assez long laps de temps entre les différentes prédications qu'on suit ensemble sur cette lettre, il me paraissait bon de commencer par brosser à nouveau un tableau des différentes thématiques qu'on avait vues jusqu'ici dans cette lettre. Déjà dans les 2 premiers versets, les salutations, Pierre nous rappelle que tous les croyants ont reçu une foi de même prix, de même valeur, et que c'est la grâce et la justice de Christ qui nous a acquis cette foi. Dans les versets 3 à 4, c'est le fondement de toute vie chrétienne qui nous était rappelé. C'est le salut par grâce dans lequel tout nous a été donné, tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Et avec Christ, nous avons même reçu les promesses les plus précieuses et les plus grandes. Ayant tout reçu, nous sommes désormais appelés à faire tous nos efforts pour grandir dans les 7 qualités qui sont décrites dans les versets 5 à 7. Non pas pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. Cette croissance à l'image de Christ nous amènera à être toujours plus affermis dans notre vocation et dans notre élection et nous fera persévérer ou nous préservera des chutes. Et ainsi, les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous seront grandes ouvertes. Mais ce ne sont pas les seuls bienfaits d'une vie vécue en s'appuyant sur la grâce entièrement, sans aucun mérite de notre part, et suivie d'une participation active à la croissance de Christ. D'ailleurs, on avait appelé ce passage la vie chrétienne normale. C'est aussi la première chose que Pierre nous donne en vue de nous garder de l'influence des faux enseignants, des faux docteurs, qui est le thème du chapitre 2 qu'on a parcouru, qu'on a commencé ensemble la dernière fois et qu'on continue maintenant. Depuis le verset 11, Pierre nous rappelait l'importance de ces enseignements au point de les mettre par écrit pour qu'on puisse en toute occasion y revenir et s'en rappeler. Puis dans les versets 16 à 18, il nous rassure, il nous assure que le retour du Seigneur est quelque chose de bien réel et il nous rappelle la puissance et la majesté qui accompagnera ce retour. Puis dans les versets, depuis le verset 19 jusqu'à la fin du chapitre 1, il continue en soulignant l'importance cruciale que la Bible, la parole, doit avoir dans nos vies. Elle est autant précieuse à nos yeux qu'une unique lumière dont nous disposerions dans un monde de ténèbres. Il fait tout nuit, vous ne voyez rien et vous recevez une lumière. Au passage, il nous rappelle aussi que la Bible est précieuse parce qu'elle n'est pas la parole d'homme, ainsi qu'il le dit, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie de l'Écriture a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et c'est là le deuxième élément que Pierre nous donne pour lutter contre les faux enseignants. C'est la parole, la Bible. Puis au chapitre 2, il nous annonce qu'il est inévitable qu'il y ait des faux docteurs au sein de l'Église. Or, on a vu, pas spécifiquement dans chaque Église locale, mais dans le monde qui se dit chrétien. Il précisait qu'ils introduiront insidieusement des hérésies de perdition, mélangeant la vérité avec le mensonge et tordant le sens des Écritures selon leur propre pensée. Il nous annonce également qu'un grand nombre vont les suivre et qu'à cause de la voix de la vérité sera calomniée. On avait vu aussi que ces faux docteurs n'échapperont pas au jugement de Dieu, mais qu'à l'inverse, Dieu préservera les siens, ceux qui lui appartiennent. Et c'est ce qui nous amène là où nous nous étions arrêtés la dernière fois. Nous reprenons au verset 10 jusqu'à la fin du chapitre, passage dans lequel Pierre va décrire ces faux prophètes. Donc dans ce passage, on verra principalement que ces faux docteurs sont insolents, c'est-à-dire présomptueux, qui sont débauchés, donc dépravés, immoraux, dépourvus de morale. En deux, qu'ils sont cupides, ils ont un désir immodéré d'argent. En trois, qu'ils vont chercher à détourner les croyants d'une vie sainte. En quatre, qu'ils ne sont en fait qu'un leurre, une tromperie. Ils semblent pleins de promesses, mais en fait, ils sont vides et décevants. Et pour finir, on terminera par une mise en garde de Pierre. Alors, venons-en au texte. Le verset 10 nous dit qu'ils ont un appétit pour la souillure et ils recherchent les plaisirs charnels. On pourrait aussi dire qu'ils courent après les désirs de la chair. Le terme « souillure » met en lumière ce qu'est réellement le péché pour celui qui le pratique, une impureté qui le souille. Et alors même qu'au sein de la société romaine, pourtant païenne, il était considéré comme une bassesse de pécher ouvertement en plein jour, sans la couverture de la nuit, eux qui se disent chrétiens font pire que les païens. Ils se livrent à la volupté en plein jour, verset 13. C'est-à-dire à une vie sensuelle ou à la satisfaction des désirs de la chair. Je me suis posé la question également, dans quelle mesure Pierre, au verset 13, donc il se livre à la volupté en plein jour, ne pensait pas forcément premièrement au fait du péché en pleine journée, mais de pécher tout en étant exposé à la lumière de la connaissance de Christ. Autrement exprimé, c'est en connaissance de cause, en connaissant la parole, qu'ils commettent ce qui est mal aux yeux de Dieu, ce qui pourrait rejoindre le verset 21, qu'il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître la voie de la justice que de l'avoir connue et s'être détourné du saint commandement qui leur avait été donné. Aussi, selon le dictionnaire du Nouveau Testament Pigeon, alors bon, quand on a dit le nom du dictionnaire, on vient de décrédibiliser toute l'argumentation qui suit, mais c'est le nom de famille de la personne qui l'a fait, hein, si jamais. Le sens peut être aussi de marcher dans la lumière de la parole de Dieu, ce sens de jour. Comme on peut trouver une utilisation qui va dans ce sens-là, en 1 Thessaloniciens 5:5, où la lumière qui vient de Dieu et le terme jour sont utilisés de manière interchangeable. Quoi qu'il en soit, que ce soit l'une ou l'autre de ces compréhensions, elles ne s'excluent pas forcément. Dans le premier cas, leur péché est aggravé aux yeux des lecteurs de la lettre en lien avec leur contexte de vie dans la société romaine. Dans le deuxième cas, la faute est aggravée aux yeux de Dieu en lien avec la connaissance de ses voies qu'ils ont. Le verset 14 nous dit encore qu'ils sont adultères et insatiables de péché. C'est quelque chose qu'ils recherchent sans cesse. Voilà donc comment Pierre dépeint ses faux enseignants. Des gens débauchés. Ces faux docteurs, bien qu'on ne connaisse pas leur argument à l'époque de Pierre, promouvaient donc une vie dans laquelle on pouvait donner libre cours aux désirs de notre chair, au péché, à une vie qui minimise la croissance à l'image de Christ. Peut-être s'appuyaient-ils sur l'argument du salut par grâce pour donner une licence à une vie de relâche, et donc voilà pourquoi Pierre a commencé sa lettre en rappelant que 1. Le salut par grâce, sans aucun mérite de notre part, doit être suivi par une vie dans laquelle le chrétien fait tous ses efforts pour grandir à l'image de Christ, dans une vie de sainteté. Et 2. Qu'avec le salut, nous avons reçu en Jésus tout le nécessaire pour mener une vie de piété, que même Dieu nous a rendus participants à la nature divine, ou traduit différemment, qu'il nous rend conformes à ce qu'est Dieu. Ces faux enseignements ont continué au cours de l'histoire, même si leur justification, la façon dont ils sont amenés, ont peut-être été changées. Ainsi, au IIe siècle, dans les années 100, avec le gnosticisme, d'où est sorti le marcionisme et d'autres, il était fait une distinction entre le corps et le spirituel, ou la matière et le spirituel. La matière, le corps, étant considérée comme mauvaise, il n'était donc, selon eux, pas dommageable de s'adonner au péché, puisque cela ne touchait que le corps. Aujourd'hui encore, on retrouve cet enseignement sous différentes formes, avec à l'origine, par exemple, un évangile dilué, sans véritable puissance, vidé de sa véritable substance. Un évangile où le péché n'est pas une offense contre un Dieu infiniment saint, où la mort de Jésus n'est pas le jugement de Dieu sur nos péchés qu'il a pris sur lui à la croix, mais plutôt pour montrer l'amour de Dieu ou un exemple à suivre. Ce qui n'est pas complètement faux. Il est vrai que l'endroit où on peut le mieux contempler l'amour de Dieu, c'est à la croix, là où Christ est mort pour nous. Mais on mesure justement la grandeur de cet amour si on considère l'échange qu'il y a eu sur cette croix. Le Seigneur prenant sur lui notre péché et nous recevant de lui sa justice. Dans cet exemple de faux évangile, Jésus est aussi une proposition pour une vie meilleure, une vie bénie, en vue des richesses de ce monde, la santé, la réussite, la gloire, etc. Un Dieu centré sur l'humanité, ayant pour seul souci de faire plaisir aux hommes, aux êtres humains, et attendant désespérément qu'ils aient suffisamment de foi pour pouvoir les bénir et accomplir des miracles dans leur vie. Cet évangile qu'il prêche laisse les gens dans leur ancienne vie, ou pire. Comme on le verra, il ramène ceux qui viennent à peine d'y avoir échappé. Un exemple tiré d'un sondage cité par le pasteur américain Paul Washer montre qu'il y a aux États-Unis autant de divorces chez ceux qui se disent chrétiens que de divorces chez ceux qui ne se disent pas chrétiens. Ou encore, le manque de crainte du Seigneur qui amène à une pratique de soi-disant prophétie à tort et à travers, répandant le mal au sein de l'Église. Et en faisant quelques recherches, je suis tombé sur le témoignage d'une jeune fille chrétienne qui avait commencé à fréquenter un homme de son église en vue du mariage. Et elle s'est rendue compte que ce jeune homme n'aimait pas réellement Dieu, qu'il n'était pas réellement chrétien. Alors, choisissant d'obéir à la parole, elle choisit de rompre avec cet homme. Et une amie à elle, une autre chrétienne, vient lui dire que Dieu lui avait révélé que c'était la volonté de Dieu qu'elle marie cet homme. Quelle légèreté! Quel manque de crainte du Seigneur sur un sujet où la parole est claire. Et justement, l'absence de crainte du Seigneur est ce qui, selon le texte qu'on étudie maintenant, est à l'origine de cette vie de débauche qui court après les désirs de la chair. C'est ce que nous disent les versets 10 et 11. « Qu'ils méprisent l'autorité du Seigneur, qu'ils sont présomptueux et arrogants. Ils ne craignent pas d'injurier les gloires, alors que les anges eux-mêmes, qui sont pourtant bien supérieurs en puissance et en force, n'osent pas porter contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. » Et comme le verset 12 nous l'indique, ils sont semblables à des animaux, des brutes sans intelligence, ou qui peut aussi être traduit par des bêtes. Une caractéristique des humains en comparaison aux animaux est le fait d'avoir reçu une raison de la part de Dieu. On pourrait dire que la raison, c'est en quelque sorte la lumière naturelle que reçoit l'être humain qui lui permet de réfléchir et discerner le bien du mal. Elle est aussi synonyme de bon sens ou de discernement. On retrouve son utilisation par Jésus et Paul en plusieurs endroits dans l'expression « à plus forte raison ». Expression qui, selon le nouveau dictionnaire biblique, montre que Dieu valorise l'intelligence qu'il a donnée aux hommes. Cela souligne l'importance de l'utilisation de la raison. Les animaux, eux, n'ont pas cette capacité intelligente de réflexion et de discernement. Ils fonctionnent à l'instinct. Et c'est d'une manière à quoi en sont réduits les hommes qui sont dirigés par leur instinct, leur appétit de souillure. Et c'est intéressant de voir qu'il y a un livre de l'Ancien Testament qui est traversé par cette trame que les êtres humains que les êtres humains deviennent des bêtes lorsqu'ils ne reconnaissent pas le royaume de Dieu. Vous l'avez peut-être compris, c'est le livre de Daniel. On le voit non seulement dans les visions de Daniel avec les bêtes, mais surtout d'une manière marquante avec le roi Nebuchadnezzar qui va se comporter comme un animal jusqu'à ce que, versets 31 et verset 33, la raison lui revienne. Jusqu'à ce que la raison lui revienne. C'est ce que le texte nous disait. Et là, il est rétabli. Le fait d'avoir une raison et de l'utiliser sainement doit nous amener à reconnaître notre place, celle de créature dépendante et redevable envers notre Créateur. Lui, le souverain et l'auteur de toute la création, nous, créatures, serviteurs, poussière retournant à la poussière. Toutefois, de grande valeur, non à cause de nous-mêmes, mais à cause de l'image qu'on porte en nous de celui qui nous a créés. Et aussi le fait de reconnaître que nous sommes personnellement pécheurs et coupables devant Dieu, et reconnaître que Jésus est le Sauveur que Dieu a donné pour notre salut. C'est donc la haute estime d'eux-mêmes, leur arrogance, qui les amène à l'image de Nebuchadnezzar, à avoir abandonné la raison et à ressembler dans leurs attitudes, non pas en apparence, au contraire, ils peuvent paraître très distingués, mais à ressembler à des animaux. Alors, à nous, hommes modernes, cela peut paraître loin. Pourtant, ne voit-on pas ce principe dans la science moderne ? Dans son orgueil, elle a évacué Dieu, et alors que nous dit-elle ? Elle affirme avec force et conviction, sans place à la remise en question, que nous sommes des animaux, que nos ancêtres étaient des singes et que nous avons évolué. Mais à la lumière de la Bible, elle fait fausse route. Le singe ou l'homme des cavernes, ce n'est pas de là que l'humanité descend, mais c'est là que l'homme sans Dieu, laissé à lui-même, se rend, se dirige. Ainsi, puisque c'est Dieu qui nous a donné la raison, ne la méprisons pas. Lorsque nous lisons la Bible, nous ne sommes pas appelés à mettre notre intelligence de côté et à se laisser guider par notre instinct, supposant que c'est l'Esprit qui nous guide. Au contraire, nous voyons que Dieu valorise dans sa parole la raison, l'intelligence qu'il nous a donnée. Le Saint-Esprit, qui est Dieu, n'ira jamais à l'encontre de la parole qu'il a inspirée. Il utilise cette capacité que nous avons reçue. Et ne pas faire usage de la raison ou en être dépourvu, on voit que c'est justement ce qui amène à ressembler à des brutes, à des animaux. Aussi, cultivons la crainte du Seigneur, parce que c'est bien plutôt elle qui nous préservera de l'erreur et du péché, et non le fait de nous dépouiller de la raison. Alors que les faux prophètes, les faux docteurs sont enflés d'orgueil, tournons un moment nos regards vers Christ pour les rafraîchir. Voyez Jésus, lui le Fils de Dieu. Il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ou encore, alors que l'heure la plus difficile allait arriver, celle où il allait être crucifié, au lieu d'être centré sur lui et ses besoins, il s'est mis à genoux et à laver les pieds de ses disciples lors du dernier repas. Chose à l'époque que seul un serviteur faisait. Alors que les faux docteurs mènent une vie de poursuite du péché, Jésus a toujours vécu une vie sainte, sans péché. Même tenté par le diable lui-même, il a résisté et est resté pur. Pierre lui-même, qui a pu l'observer pendant 3 ans, qui a été enseigné par Jésus, nous dit en 1 Pierre 2, 22 à 23, « Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, souffrant, ne faisait pas de menace, mais qui s'en remettait à celui qui juge justement. » Comme on le voit ici, alors que les faux docteurs sont arrogants, Jésus, à l'inverse, il a été soumis à celui qui l'a envoyé. Non seulement face à ceux qui l'insultaient, mais encore jusque dans l'épreuve la plus terrible qui puisse être, celle de la croix, où il est allé pour nous, pour porter nos péchés. Alors que l'heure approchait, qu'il souffrait terriblement dans tout son être à la vue de cette épreuve qui ne peut pas vraiment être comprise dans toute son ampleur, et donc il désirait ardemment qu'elle s'éloigne de lui, il a préféré dire à son Père « Que ta volonté soit faite ». Quelle pureté, quelle humilité, quelle obéissance Quelle fidélité! Et nous passons maintenant au fait qu'ils sont cupides et que dans leur cupidité, ils s'appliquent à égarer les gens. Leur désir immodéré d'argent, de s'enrichir, les pousse à exploiter les autres. C'est ce que Pierre nous dit au verset 3 de ce chapitre, ainsi qu'au verset 14. C'est l'appât du gain qui les pousse. Et Pierre, qui aime prendre des faits historiques de l'Ancien Testament pour soutenir et illustrer son discours, nous dit qu'ils ont suivi le chemin de Balaam, qui aima un salaire injuste. Alors, en quoi est-ce qu'ils ont suivi le chemin de Balaam ? Comme on l'a vu en introduction, alors que le roi de Moab envoie des serviteurs demander à Balaam de maudire le peuple d'Israël, Balaam va chercher et attendre la réponse de Dieu, qui ne tarde pas et qui est très claire. Tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Verset 12. Alors Balak va lui proposer honneur et richesse pour le convaincre. Mais qu'est-ce que l'honneur et les richesses proposées à Balak pouvaient bien changer à la vie de Dieu? Si Dieu avait voulu donner plus de richesses et d'honneur à Balaam, avait-il besoin de Balak? N'est-il pas le Dieu à qui tout l'or et l'argent appartiennent, comme nous dit la parole? N'est-il pas le Dieu d'Abraham, de Job, le Dieu de Salomon? En quoi est-ce que les propositions de richesse et d'honneur pouvaient-elles influencer la décision et la réponse de Dieu? Ainsi, Balaam est parti avec ses hommes, poussé par son désir de richesse et d'honneur, et il y allait en vue de recevoir un salaire injuste, en commettant le mal. C'est le parallèle que Pierre fait avec les faux docteurs. Alors que le pasteur fidèle, qui s'applique avec l'aide de Dieu à mener les brebis du Seigneur dans les bons pâturages de sa parole, alors que ce pasteur mérite son salaire, pour eux, c'est un salaire injuste qu'ils reçoivent. C'est un salaire qui récompense le fait d'égarer son prochain par cupidité et par fourberie. Et c'est un principe essentiel que nous devons garder. Si Dieu nous révèle clairement dans sa parole qu'une chose est mauvaise, gardons-nous avec la plus grande rigueur de faire l'erreur de penser que Dieu pourrait changer d'avis pour nous ou faire une exception, que cela ne nous concerne pas. Ça pourrait aussi être de sortir et de se marier avec une personne non chrétienne ou encore un divorce. Rien ne sert de demander à Dieu un signe, sa parole est claire. Le pire, sauf exception pour le divorce, pardon. Le pire qui pourrait arriver est justement que Dieu permette ce signe. Le jugement de Dieu, ce n'est pas de nous reprendre. Le jugement de Dieu est de nous laisser aller à notre péché sans nous reprendre. Ainsi, que ce soit une promotion qui amènerait à faire des choses mauvaises, un gain facile ou même difficile, quoi que ce soit qui nous serait proposé, si cela va à l'encontre d'un principe que Dieu nous a clairement révélé dans sa parole comme mal, soyons rigoureux, restons fidèles à sa parole, à sa révélation. Et c'est intéressant aussi car, pour rappel, juste avant d'arriver au thème des faux docteurs, Pierre nous rappelait toute l'importance de la parole, la Bible, valorisant la Bible à nos yeux, comparant à l'unique lumière dans un monde de ténèbres, comme on l'a vu avant. Ce désir de s'enrichir va donc les amener à s'appliquer à séduire les hommes et les femmes, particulièrement ceux qui viennent de se convertir. C'est le verset 18 qui nous le dit. Pourquoi plus ceux qui viennent de se convertir? Il est bien plus simple de détourner quelqu'un du droit chemin alors que la Bible lui est encore peu connue qu'une personne qui fréquente l'église tous les dimanches et lit sa Bible tous les jours depuis 20 ans. Mais heureusement, le Seigneur sait garder les siens. Par exemple, Lynn et moi, nous sommes convertis dans une église charismatique où l'évangile de prospérité était prêché. Nous sommes un témoignage que le Seigneur nous a gardés, nous a permis de nous rendre compte qu'il existait une différence entre ce qui était enseigné et ce que nous pouvions lire dans sa parole, notamment en utilisant un pasteur fidèle que nous aimions écouter et par lequel le Seigneur a œuvré. J'aimerais toutefois encore souligner ici que j'ai aussi connu dans cette église des frères et des sœurs en Christ dont la rencontre me réjouit encore grandement aujourd'hui. Alors, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'ils égarent les gens ? J'ai regroupé en trois points, sur la base des versets 17 à 19, par des discours grandiloquents, mais creux, c'est le premier, par les convoitises déréglées de la chair, c'est le deuxième, en promettant une fausse liberté, c'est le troisième. Donc, par des discours grandiloquents. Ne soyons pas surpris que ces hommes soient des bons orateurs et que leurs discours soient attrayants. Alors, ce n'est pas spécifiquement une caractéristique des faux docteurs d'avoir de beaux discours. Un certain Jean, qui a été nommé Jean Chrysostome, qui a vécu au IVe siècle, a été nommé ainsi en raison de son éloquence brillante et énergique, Chrysostome signifiant « à la bouche d'or ». Ou encore plus proche de nous, Charles Spurgeon passait pour un grand orateur. Ici, simplement, pour nommer deux exemples qui ont marqué l'histoire et souligner le fait qu'être un bon orateur ne fait pas de la personne un faux docteur. Ce passage nous montre toutefois qu'ils vont régulièrement être attrayants par leur discours. Mais à bien y regarder, ils sont vides, car ils ne contiennent pas les paroles de vie. Ils contiennent les convoitises déréglées de la chair, et cela laisse toujours vide. Pierre utilise deux illustrations parlantes. Imaginez-vous avoir fait une longue marche, par une grande chaleur comme on a connu ces derniers étés. Et, vous avez oublié de prendre une gourde avec vous, vous avez soif. Au cours de cette marche s'installe cette soif pour laquelle vous seriez prêt à payer cher pour un verre d'eau. Vous arrivez dans un village. Et, approchant du centre de ce village, vous voyez de dos une fontaine. Votre cœur bondit de joie à la vue de cette fontaine, à la vue de ce lieu où coule une eau rafraîchissante. Vous vous imaginez déjà la prendre dans vos mains et boire à grands traits et vous rafraîchir le visage. Il vous semble déjà entendre le doux clapotis de l'eau qui tombe dans le bassin. Et alors que vous arrivez à la hauteur de la fontaine et que vous la contournez, rien. Il n'y a pas d'eau qui coule. Voilà à quoi Pierre compare le discours des faux prophètes. Il semble plein de promesses, mais il est creux et finit par décevoir, car la vie ne s'y trouve pas, et l'eau, c'est la vie. Ou encore, imaginez-vous un instant être agriculteur. Vous avez labouré vos champs, vous avez semé, mais la pluie manque. Alors vos yeux guettent le ciel. Ils cherchent le nuage qui viendra déverser sa pluie sur vos champs. Alors soudain, votre cœur bondit de joie. Eh oui, encore. Des nuages s'amassent à l'horizon, promesse d'une pluie bienfaisante. C'est l'allégresse qui vous saisit. Mais alors qu'ils s'approchent, ils sont chassés au loin par une tempête. Quelle déception ! Ils semblaient pleins de promesses. Une autre application de cette dernière image qui peut venir s'ajouter à la première est que ces nuages vont obscurcir le soleil, le cacher. Ainsi, les discours des faux docteurs viennent cacher la vraie lumière, celle de la vérité du Seigneur, par leurs mensonges. Voilà la deuxième illustration que nous donne Pierre, c'était au verset 17 qu'on trouvait ces deux illustrations. Maintenant, comment est-ce qu'ils séduisent ? En s'adressant à notre chair. Comme le font, par exemple, ceux qui enseignent la prospérité, richesse, réussite, gloire, succès et pour certains, liberté de pratiquer le péché. C'est ainsi qu'ils attirent à eux ceux qui n'ont pas vraiment compris le vrai sens de la vie de Christ, avec Christ. C'est pour cela que Pierre a commencé son épître par nous rappeler ce qu'on a appelé la vie chrétienne normale, le salut par grâce, suivi du fait de faire tous ses efforts pour grandir à l'image de Christ. L'art de ces gens est donc de prendre des passages bibliques pour soutenir leurs propres pensées et désirs. Encore un partage personnel. Avant de me convertir, J'étais dans le Nouvel Âge, le New Age. Au début de ma conversion, j'ai été frappé, comme dans le milieu que je fréquentais, certains enseignements ou livres que je lisais contenaient parfois beaucoup d'éléments qui ressemblaient complètement au Nouvel Âge. Et la réponse qu'on m'avait donnée, c'était que Satan reprend ce qui est bon dans la parole de Dieu et qu'il en déforme juste le 10%. En conséquence, cela voudrait dire en fait que le Nouvel Âge serait composé de 90% d'enseignements bibliques et de 10% que Satan aurait déformé. C'est bien plutôt l'inverse. C'est les faux docteurs qui prennent un petit peu de la Bible pour en donner des allures bibliques, mais auxquels ils font ensuite dire ce qu'ils veulent. Et c'est là encore que face à de tels discours, l'utilisation de notre raison sera utile pour analyser leur message. Pour finir ces trois points, ils promettent une fausse liberté. C'est le verset 19. Dans un premier temps, pour pouvoir donner libre cours au désir de la chair, dans un premier temps, pouvoir donner libre cours au désir de la chair peut paraître être une liberté. Mais en réalité, c'est un esclavage. Comme l'a dit Jésus en Jean 8, 34, « en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. » Ou encore, comme le dit Paul en Romains 16, 6, « ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice ?» Ou encore la mise en garde qu'on retrouve en Galates 6, 7, 8. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, il moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Alors que ces faux enseignants égarent, tournons à nouveau nos regards vers le Christ. Jésus a toujours amener les gens sur le chemin de la vie. Il a dénoncé l'erreur et l'hypocrisie, enseigné la vérité avec amour et au prix de sa propre vie. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie, a tenu ferme dans l'enseignement fidèle et aucun de ceux qu'il est venu chercher ne s'est égaré. Il est le divin berger qui garde ses brebis et personne ne peut les arracher de sa main. Alors nous aussi, à sa suite, tenons ferme dans la vérité. Cherchons à dire avec sagesse la vérité, avec amour, quel qu'en soit le prix, que ce soit à nos contemporains comme à nos frères et sœurs en Christ. Alors que les motivations des faux docteurs sont égoïstes, celles de Jésus ont toujours été l'amour pour Dieu, l'amour pour son prochain et une profonde compassion pour les opprimés et les pécheurs. Combien de malades guéris, combien de démoniaques libérés, de morts spirituels ressuscités, d'aveugles guéris et surtout de pécheurs coupables réconciliés. Combien de personnes vivant des vies loin de Dieu qui se sont détournées de leur chemin en raison de l'amour de Jésus et du pardon qu'il offre. Que le Seigneur nous accorde les mêmes motivations que lui. Et pour terminer cette section, Pierre nous donne une sérieuse mise en garde au verset 20 et 21. « En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par elles, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que l'avoir connue et de se détourner du Saint Commandement qui leur avait été donné. » C'est un avertissement fort pour celui qui se détourne après avoir été exposé à la lumière du Seigneur par sa parole, il a une plus grande responsabilité devant la justice de Dieu que celui qui n'a jamais connu ces choses. Ainsi, il vaudrait mieux ne pas avoir connu cela que s'en détourner. C'est une vive mise en garde que Pierre nous fait pour nous montrer tout le danger de suivre ces faux docteurs. Le danger qu'il y a à abandonner le chemin étroit. Mais si Pierre écrit ces choses ici, ce n'est pas comme le ferait le menaçant père fouettard. Non. Son cœur de berger veut que personne d'entre ses lecteurs ne se laisse égarer. Et c'est pourquoi, dans le premier chapitre, il commençait par décrire une vie chrétienne saine, puis la centralité de la parole comme seule lumière dans la vie du chrétien au milieu des ténèbres de ce monde. Tout parent sait qu'il vaut mieux expliquer à son enfant comment traverser une route et le danger que cela représente plutôt que le laisser faire ses essais sans avoir été un berger, un gardien pour lui. Avant de passer au dernier point, j'aimerais souligner une chose essentielle, vraiment essentielle. Ce n'est pas en regardant aux faux enseignants que nous serons gardés. Les observer et chercher à mieux les connaître ne nous préservera pas de leur erreur et de leur influence. Alors que ce passage nous a amené à beaucoup regarder à eux, parce que c'était la thématique, il y aurait encore beaucoup d'autres doctrines ou de choses fausses à dénoncer. Mais non, c'est le fait de regarder à Christ, de contempler Jésus au travers de sa parole dans son ensemble, de la méditer en faisant usage de la raison qui nous gardera de l'erreur. C'est en étant habitué à regarder ce qui est juste que nous discernerons ce qui est faux. Alors, regardons à Jésus. Mais il nous reste encore le verset 22 qu'on utilisera comme conclusion. Comment comprendre? Le chien retourne à ce qu'il a vomi et la truie, à peine lavée, qui va se vautrer dans le bourbier. Peut-on perdre notre salut? En fait, c'est intéressant. Pierre, dans ce passage, nous enseigne justement le contraire. Dans ces deux illustrations, Pierre nous démontre que ces personnes n'étaient pas sauvées. Comment? Par le fait qu'il n'y a pas eu de changement de nature. Le chien a bien vomi, mais il a gardé la même nature. Il est toujours un chien. La truie a bien été lavée, mais elle est restée une truie. Chacun de ces exemples nous montre qu'il n'y a pas eu de transformation. Si Pierre avait dit « la truie, après s'être lavée, est devenue un lion bien propre et elle est redevenue une truie », alors là, d'accord, mais ce n'est pas ce que le texte nous dit. Regardez encore avec moi en 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Terminer le chien, terminer la truie, en d'autres mots, terminer la bête. Un chrétien est une personne née de nouveau, une nouvelle créature. Et au verset 17, Paul dans ce texte a encore bien soin, au verset 18, Paul dans ce texte a encore bien soin de nous rappeler quel mérite on a là-dedans. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui, par Christ. Donc sans mérite, sans participation de notre part. C'est un salut par grâce. Ce n'est pas notre œuvre, c'est celle de Dieu. Et Dieu ne change pas d'avis en cours de route. Maintenant, s'il est vrai qu'un chrétien ne peut pas perdre son salut, il faut quand même voir ici une mise en garde pour tous. Contrairement aux faux docteurs, nous avons une nouvelle nature. Alors nous avons à vivre selon cette nouvelle nature. Imaginez que vous êtes invité au mariage d'une personne que vous aimez particulièrement. Vous avez acheté de beaux habits pour honorer ces personnes et vous vous réjouissez d'aller à ce mariage. En chemin, bien qu'élégamment vêtu, vous passez devant de la boue et il vous prend un désir irrésistible d'aller vous rouler dedans. Une fois que la raison vous revient, vous vous demandez comment vous avez pu faire ça. Vos habits sont tous souillés. Lorsqu'en tant que chrétien, on se laisse aller à pécher, C'est un peu la même chose. Alors que Dieu nous a donné une nouvelle nature, nous a revêtus de nouveaux habits, nous nous souillons et nous offensons Dieu. Alors, quand on fait du vélo et qu'on veut éviter un arbre, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Vous avez appris ça, les enfants? Il ne faut pas regarder l'arbre, sinon vous allez en plein dessus. Il faut regarder là où on veut aller. Ici, c'est pareil. La solution n'est pas de regarder le péché dans lequel on a peur de tomber et qu'on veut éviter, ou le péché qu'on a commis malheureusement, mais fixer son regard sur Christ, en qui se trouve le pardon de nos péchés, acquis chèrement, mais définitivement, sur la croix. Là où se trouve notre sainteté et tout ce dont nous avons besoin pour mener une vie de piété à l'écart des faux enseignants. Regardons à Christ encore et toujours et stimulons-nous ensemble à regarder vers Christ. Et si quelqu'un ce matin n'a jamais porté les regards vers Christ, n'a pas fait ce pas de reconnaître Jésus comme son Seigneur et Sauveur, eh bien il est temps aujourd'hui de le faire. Je vais prier. Seigneur Jésus, j'aimerais te remercier parce que nous ne pourrions pas par nous-mêmes résister aux faux enseignements qu'on trouve dans ce monde. Mais tu es le divin berger qui veille sur nous et tu nous as donné des bergers, des églises, des frères et sœurs, des enseignants pour nous garder dans la vérité. Seigneur, apprends-nous à ne pas regarder aux faux prophètes, à ne pas regarder aux péchés, mais à regarder à toi, Seigneur Jésus, à ton œuvre, à ta sainteté, à tout ce que tu nous as acquis à la croix et au fait qu'en toi, nous avons tout reçu ce qui est nécessaire pour notre vie ici-bas. Seigneur, que ces paroles imparfaites qui ont pu être dites ce matin puissent faire leur œuvre parfaite dans les cœurs par l'œuvre de ton esprit. Au nom de Jésus, je te prie. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.